Tu y as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Durant cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Voici que débute un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, je vous propose d'écouter ce que l'humain aime à regarder dans ce que l'on appelle vivant. Cette semaine, installe-nous aux côtés d'une éternelle curieuse du végétal et de leurs parasites. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ?
Je suis Anne Breugne, depuis plus de 30 ans. J'enseigne la botanique, la parasitologie. J'enseigne également l'écologie végétale, la biologie. Et je suis passionnée en fait par les plantes depuis l'âge de 15 ans, en particulier par les mousses. À partir de ce moment-là, j'ai fait une thèse sur les mousses et je me suis intéressée aussi aux plantes à fleurs. Le sens de l'observation que m'a donné ma mère, professeure d'art plastique. On partait beaucoup en forêt, on allait se balader. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser aux plantes en particulier, et puis aux mousses, parce que je me suis dit, mais ça a l'air passionnant, ce monde des mousses, et je me suis intéressée de plus près. Donc j'ai commencé à les regarder plus, davantage, et je me suis bien aperçue qu'en fait, il y avait sans doute des espèces différentes, mais j'étais incapable de mettre un mot dessus, un nom. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai vu une publicité pour un prix scientifique, organisé par la société Philips, donc un prix pour les jeunes. Et je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion de faire une étude sur les mousses. Et je suis allée complètement au hasard au Muséum National d'Histoire Naturelle pour savoir si, par hasard, on ne pouvait pas me prêter un microscope parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter. Et je suis tombée sur la directrice du laboratoire de cryptogamie. Donc à l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc c'était les plantes sans fleurs. Et elle m'a pris sous son aile. Et elle m'a expliqué comment faire une étude scientifique, comment les étudier, comment se servir des herbiers du muséum, comment se servir de la bibliographie. En fait, à l'âge de 15 ans, ben, les mousses ne m'ont pas lâché jusqu'à, finalement, j'ai fait ma thèse là-dessus aussi, sur ces plantes magiques. Il y a énormément d'espèces, puisque les bryophytes, c'est à peu près 25 000 espèces. Ben, finalement, j'ai découvert un monde passionnant avec une échelle du paysage de l'infiniment petit.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant t'inspire ? Quels mots te viennent à l'esprit ? Quelle couleur ? Quelle odeur ? Quel goût ? Quelle texture ?
Le vivant, ça m'inspire l'ensemble de la biodiversité, aussi bien végétale qu'animale, à différentes échelles. Aussi bien le tout petit, le microscopique, jusqu'à une échelle de territoire beaucoup plus vaste, avec tout ce qui concerne les milieux, les écosystèmes forestiers, etc. Ça m'inspire également tout ce qui est de la dynamique de la biodiversité qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On n'a pas les mêmes espèces, qui sont présentes dans un lieu donné. Et puis le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est la faculté d'adaptation du vivant par rapport à toute l'évolution des milieux, etc. Le vivant, ça m'inspire aussi les caractères extrêmes, en fait. Moi, j'ai fait une thèse sur l'anhydrobiose, c'est-à-dire la vie sans eau. Le vivant peut être aussi en état de vie ralentie. C'est ce qui m'avait passionné pendant plusieurs années pour ma thèse sur les mousses. Et certaines espèces ont la faculté de rester complètement déshydratées pendant des années et de reprendre une vie active dès la moindre goutte d'eau, de pluie. Donc c'est ce qui se passait pour ces fameuses mousses. Le record, c'était être resté en état déshydraté pendant 23 années. Alors, c'était des espèces que j'avais pris à l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle, puisque je faisais ma thèse là-bas. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se passait d'un point de vue cellulaire, comment les cellules étaient conservées à l'état complètement déshydraté, et tout ce qui se passe au fur et à mesure de la réhydratation. Donc voilà, le vivant a vraiment des caractères très, très, très différents. Il n'y a pas que des mousses qui sont capables de rester complètement déshydratées comme ça. Il y a également des petits animaux microscopiques, comme des nématodes, des petits vers microscopiques qui sont fins comme un cheveu et qui sont aussi capables de rester déshydratés pendant des années dans un sol au sec, par exemple, et puis dès qu'il y a la moindre goutte de pluie, de reprendre aussi une vie active. La couleur jaune, alors jaune d'or, un petit peu comme le soleil, même si il y a plein de couleurs dans la décomposition de ce spectre. Donc 50 nuances de jaune, on va dire, qui correspond finalement à l'énergie lumineuse qui va être apportée aux êtres vivants et en particulier aux plantes, et qui vont être capables de transformer cette énergie lumineuse en énergie carbonée. Et de là, on va avoir toute la chaîne des êtres vivants, les chaînes alimentaires, avec les consommateurs primaires, secondaires, etc. Et puis cette couleur jaune, elle m'inspire parce que donc ça me fait penser en fait au soleil et le soleil en fait à la fois par la température dégagée et par la lumière que ça va apporter va générer aussi des comportements d'êtres vivants, en particulier tout ce qui va être lié à la photopériode, c'est-à-dire le rythme d'alternance entre le jour et la nuit va influencer les êtres vivants, y compris pour la mise à fleur des plantes, ou par rapport au phénomène de dormance qu'il peut y avoir pour tel ou tel organisme. Pour l'odeur de la terre humide, qui est générée par de nombreux micro-organismes, en particulier des bactéries, et cette odeur typique qu'on ressent quand on est, par exemple, dans une forêt où il a plu, ça me fait penser à tous ces mécanismes fondamentaux de symbiose qu'il va y avoir entre les arbres et puis aussi les champignons. Et donc toutes ces interactions entre le vivant. Je pense à toutes ces herbes aromatiques qu'on va cueillir sur un bord de chemin. Par exemple des brins de menthe, ou de la mélisse. Ou pourquoi pas aussi du fenouil, du thym. Toutes ces plantes aromatiques, souvent de la famille des lamiacées ou des apiacées, les ombellifères, qui ont vraiment des essences volatiles qui sont très riches et qui font un petit peu le goût de ces plantes. Par rapport au son, je pense au chant des oiseaux, aux multiples oiseaux qui peuplent nos campagnes, nos forêts, qui malheureusement disparaissent de plus en plus avec l'utilisation massive de pesticides, même si ça s'est réduit ces dernières années. Entendre le son des oiseaux, c'est quelque chose de magique. Par rapport à une texture, je pense à la texture un peu écailleuse. Alors, écailleuse qu'on peut retrouver aussi bien chez des reptiles, par exemple, qui aussi par rapport à une structure écailleuse qu'on voit sur les écorces hein, et qui vont servir à conserver aussi l'eau.
Cette vision du vivant que tu viens de nous décrire, comment la retransmets-tu à travers tes projets ou tes recherches ?
Alors, j'enseigne par exemple en parasitologie. Finalement, la notion de parasite, c'est quelque chose qui avait un aspect très négatif avant, où on parlait plus d'ennemis des cultures, on parlait d'espèces nuisibles. Et finalement, en fait, on s'aperçoit que ça a une place en fait, dans la biodiversité, que s'il y avait les parasites, sont inclus dans le vivant. Et s'il y a des producteurs, il y a forcément des espèces qui sont inféodées aux producteurs, donc aux plantes. Et maintenant, plutôt que de parler de parasite qui a une connotation très péjorative, on va plutôt parler de consommateur de végétal. Et pour se dire qu'en fait, on accepte qu'il y ait certains parasites. Alors bien sûr, certains parasites posent problème quand même. Je pense par exemple à la pyraviculus qui met en danger cette espèce-là. Et on va en fait intégrer la notion de seuil de nuisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on va accepter finalement qu'il y ait des parasites, mais on va regarder jusqu'où on peut aller dans la tolérance par rapport à ces parasites. Et donc, on va définir est-ce que ça pose un problème par rapport à la plante elle-même, c'est-à-dire est-ce que ça risque de la faire mourir. Donc là, c'est vraiment un gros problème. Et donc, ça sera un petit peu le seuil de nuisibilité vitale. Ou est-ce qu'il y a un risque économique? Et donc, dans ces cas-là, c'est un seuil de nuisibilité économique pour lequel on va se dire oui, là, il va falloir faire quelque chose. Ou ça peut être simplement esthétique, donc ça, c'est très variable d'une personne à une autre. Ou ça peut être un seuil de nuisibilité commoditaire, c'est-à-dire qui porte atteinte au confort de vie de l'homme. Je pense par exemple aux chenilles processionnaires du pin ou du chêne. Qui pour la plante elle-même n'est pas forcément un problème. La plante peut supporter qu'il y ait quelques parasites. Mais en revanche, les poils urticants peuvent poser des soucis de santé humaine, puisque ces poils urticants, ça fait un petit peu comme des harpons qui sont capables de se ficher dans la peau et de provoquer des démangeaisons, des allergies, voire même dans les yeux. Il y a une acceptation finalement de certains parasites et un refus de parasites quand ils dépassent un seuil de nuisibilité. Alors quand je dis refus, ça veut dire en fait finalement plutôt une manière de les réguler. Alors pas avec les pesticides classiques comme on préconisait autrefois, mais au contraire avec des méthodes beaucoup plus douces pour l'environnement et donc acceptables.
À ton avis, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant?
Alors, l'humain, il pourrait apporter des actions de conservation. On voit qu'il y a une crise majeure de la biodiversité, avec des disparitions d'espèces comme on n'a jamais connu. Et donc, c'est important que chacun puisse laisser une place à la biodiversité. Ça peut être simplement dans son jardin, en ne tondant pas régulièrement sa pelouse, mais en laissant une place aux herbes folles, entre guillemets, donc avec une place aux prairies en particulier, accepter les pissenlits, les pâquerettes, etc. Donc, moins tondre les pelouses. Laisser une place aux lieux humides, un lieu qui est vraiment très important pour la préservation de certaines espèces, donc tout ce qui est conservation de ce qu'on appelle la trame bleue. Il y a la notion de propre, de sale. Souvent, quand on laisse des plantes spontanées se mettre en place, c'est notre regard qu'il faut changer en fait par rapport à ça. Finalement, quand il y a des plantes spontanées qui arrivent, ça fait partie de la biodiversité et donc ça va permettre les interactions avec notamment les insectes. On a 80% des espèces qui sont pollinisées par les insectes et donc grâce à ça, on va avoir des oiseaux, etc. Donc on a toute une communauté d'espèces qui vont être fondamentales sur ces herbes que certains qualifient d'herbes folles, mais qui ont vraiment un rôle très important sur notre planète.
On va passer à la question d'actu. La semaine précédente, avec l'épisode Feuille de chou, la COP15 de la diversité biologique a été abordée, notamment via les objectifs de l'accord de Montréal, avec ses 30% de terres et de mers à sauvegarder d'ici 2030, mais également avec le regard porté par les peuples indigènes qui souhaiteraient que leur voix de gardien du vivant soit prise en considération. À la lumière de ta vision du vivant, qu'est-ce que cela t'inspire?
Ça m'inspire un léger progrès par rapport à la protection d'au moins 30% des surfaces terrestres, qui est absolument indispensable et nécessaire. Quand on voit qu'on a l'équivalent en surface d'un terrain de foot qui est imperméabilisé toutes les 7 minutes, donc on se rend compte de l'enjeu majeur par rapport à cette protection de tous les milieux, aussi bien terrestre qu'aquatique. Enfin, on pense à protéger plus au moins 30% des surfaces terrestres contre 17% avant. C'est pas suffisant en fait. Et puis surtout, c'est un objectif. Est-ce qu'on va vraiment le tenir? Finalement, on s'aperçoit que dans le plan zéro phyto qui visait à réduire de 50% l'utilisation des pesticides, et bien finalement ce plan on s'était donné, ça c'était en 2008, on s'était donné jusqu'en 2018, et finalement on voit que qu'on a repoussé ce plan, qu'on est passé à un autre plan, éco-phyto ensuite Ecophyto 1, Ecophyto 2, et qu'on va repousser encore ce planning. Donc, ce qu'il faut, c'est tenir. Voilà, là, on annonce ça dans les objectifs, mais vraiment qu'il y ait un décret d'application pour que ce soit vraiment efficace. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des comités, entre guillemets, de pilotage et de suivi, surtout de surveillance, avec des écologues qui se rendent compte sur place, localement. Et ça rejoint aussi un petit peu d'intégrer les peuples indigènes quelque part, enfin bref, le local, et de connaître ce qui se passe d'une manière géographiquement proche, notamment par le biais aussi des atlas de biodiversité qui sont de plus en plus demandés dans chaque département. Donc il faudrait vraiment des décrets d'application.
On va passer à l'agenda. Dis-nous, Anne, quelle référence ou date à ne pas manquer souhaiterais-tu nous transmettre ?
Je pense en particulier au livre d'Éric Lenoir, qui est paysagiste, qui a écrit Le Grand Traité du Jardin Pink, qui reflète justement cette connexion à la nature qui est indispensable et le fait de laisser beaucoup plus de place aux plantes sauvages, à la biodiversité, aux herbes folles en particulier. Et comme autre publication, je pense aussi à une publication récente de l'Office français de la biodiversité sur la renaturation des sols, qui est aussi fondamentale pour préserver le patrimoine du sol. Je pense aussi à la flore des friches urbaines d'Audrey Muratet, qui recense justement toutes ces espèces végétales qu'on va trouver dans les endroits un peu sauvages, laissés à l'abandon, et qui recèlent aussi des trésors. Observer, aller dehors, sentir, toucher et se détacher du numérique, en fait. Aller dans le concret, aller sentir, humer la nature.
Tu y as pêché où, baobab, acajou ?
Voici que cet épisode auprès de la biologie et de l'écologie scientifique prend fin. La semaine prochaine, nous quittons les boîtes à pétri du vivant pour retrouver une autre vision de ce qui compose notre planète.
Tremble, tremble être noyée.